Merci, en tout cas, merci de m'inviter pour parler de ce que j'ai fait depuis de nombreuses années sur ces textes, des textes gnostiques. Mais j'aimerais effectivement présenter quelques remarques sur les gnostiques et les manichéens pour une nouvelle approche des gnostiques anciens. Les mouvements gnostiques sont connus depuis l'Antiquité pour leur valorisation des connaissances qui donnent accès à un salut. Le terme gnostique provient d'un mot grec qui renvoie à la connaissance, gnosis, et l'adjectif gnostikos, gnostique. Les premiers écrivains chrétiens ont souvent débattu avec ces mouvements à un moment de très grande diversité d'opinions sur le contenu de la foi chrétienne au IIe et IIIe siècle de notre ère. Mais déjà dans le Nouveau Testament, l'auteur de la première épître à Timothée critique chez ses adversaires, je cite, « les légendes et les généalogies sans fin, les bavardages creux, les commérages de vieilles femmes. » Ceci dit, il n'est guère possible de montrer que ces propos visaient, au temps de la première épître à Timothée, des gnostiques. En revanche, un siècle plus tard, l'évêque Irénée de Lyon reprend ces expressions pour contrer les cercles et les mouvements qu'il a rencontrés à Rome, puis à Lyon, dans la deuxième moitié du deuxième siècle. Et il écrit ainsi, vers les années 180-185, dans la préface de son « Contre les hérésies », c'est le texte numéro 1, « Rejetant la vérité, certains introduisent des discours mensongers et des généalogies sans fin, plus propres à susciter des questions, comme le dit l'apôtre. Plus propre à susciter des questions qu'à bâtir l'édifice de Dieu fondé sur la foi. Par une vraisemblance frauduleusement agencée, ils séduisent l'esprit des ignorants et les réduisent à leur merci, falsifiant les paroles du Seigneur et se faisant les mauvais interprètes de ce qui a été bien exprimé. Ils causent ainsi la ruine d'un grand nombre en les détournant sous prétexte de gnose, de connaissance, de celui qui a constitué et ordonné cet univers. » Fin de citation. Irénée est l'un de ces écrivains chrétiens qui s'est battu contre des mouvements qui ont été vite qualifiés d'hérétiques. Irénée fait donc partie de ce qu'on appelle les hérésiologues, ceux qui écrivent contre ce qu'ils appellent, eux, des hérésies, comme un peu plus tard Tertullien, en monde latin, ou un certain pseudo-Hippolyte, au IIIe siècle de notre ère, en monde grec, ou encore au IVe siècle, Épiphane, avec son Panarion, sans compter plus tard un grand auteur, saint Augustin. Prenez son De Hérésibus. Aujourd'hui, il importe de bien distinguer l'approche polémique des hérésiologues sur les gnostiques de ce que disent les gnostiques eux-mêmes, ou les manichéens. De plus, il faut distinguer les mouvements et les cercles gnostiques de la religion manichéenne. On a trop longtemps considéré les manichéens comme une sorte de secte gnostique, alors que la religion manichéenne, qui est née en Iran au milieu du IIIe siècle, s'est répandue dans l'Occident méditerranéen, mais aussi sur les routes d'Asie centrale, jusqu'en Chine, comme toute religion qui se voulait universelle. Malheureusement, la connaissance qu'on avait des gnostiques dans l'Antiquité a dépendu jusqu'au XIXe siècle de ce qu'on pouvait lire dans les écrits des hérésiologues. Et il faut attendre la découverte de quelques volumes de textes coptes, maintenant conservés à Londres, à Oxford, à Berlin, pour que l'approche historique des gnostiques évolue. Puis, la découverte, en décembre 1945, d'une cinquantaine de textes coptes près de la ville de Nag Hammadi en Haute-Égypte a profondément modifié l'horizon de la recherche sur les gnostiques anciens. Il s'agit de l'une des plus grandes découvertes de textes anciens au XXe siècle, à côté des manuscrits de la Mer Morte à Qumran en 1947, ou des manuscrits coptes manichéens, eux aussi découverts en Égypte à Medinet Mahdi en 1930. Imaginez, la première traduction complète en anglais de cette collection de Nag Hammadi date seulement de 1977, avec en prime, en traduction française complète, seulement un volume de 2007, un volume de la collection de la Pléiade chez Gallimard, écrit gnostique. Avant de donner quelques exemples de recherche sur les gnostiques, il me faut présenter le contenu de ces découvertes, encore très mal connues du grand public. Donc mon premier point, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi. C'est en décembre 1945 que des paysans de la région de Nag Hammadi, à la recherche d'engrais, tombent accidentellement sur une jarre dans un tombeau au pied d'une falaise du Jabal el Tarif, près du hameau de Hamradoum. C'est à quelques 9 km des ruines d'un monastère du fameux moine Pacôm, au IVe siècle, un des grands moines qui a fondé le monachisme. Cette jarre contenait des feuillets de papyrus reliés comme des livres, 13 codex au total. Ils furent vendus à des commerçants au Caire, et l'un de ces codex arrive au musée copte du Caire en octobre 1946. La presse au Caire a annoncé la nouvelle en janvier 1948, et l'un de mes prédécesseurs, Henri-Charles Puech, avec l'aide de Jean Dorès, annonce au monde scientifique le contenu de cette découverte à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en février 1948. Alors, diverses négociations s'engagent sur l'achat de ces codex. La Bibliothèque nationale de France refuse malheureusement l'achat, estimé trop cher pour elle. Un codex arrive à partir aux États-Unis avant de revenir à Bruxelles pour être acheté en 1952 grâce à un professeur d'Utrecht, Gilles Quispel, qui avait eu l'idée d'offrir un cadeau d'anniversaire au psychanalyste Carl Gustav Jung à Zurich. La crise de Suez bloque pour 4 ans l'accès aux manuscrits qui finalement seront conservés, comme encore aujourd'hui, au musée copte du Caire à partir de 1975. Et des tractations engagées par James Robinson de Claremont en Californie avec l'UNESCO et la République arabe d'Égypte aboutissent à la publication d'une collection complète des facsimilés de papyrus publiés par la maison Brill à Leiden de 1972 à 1984. D'après les estimations de cette collection des 13 codex, la collection complète devait comporter 1304 pages, dont 1240 inscrites. Seules 1196 ont été conservées aujourd'hui, dont 1156 inscrites. Il reste donc encore quelques pages qui circulent, on ne sait pas très bien où, chez des antiquaires ou dans des collections privées. Ces textes coptes ont été copiés vraisemblablement dans la deuxième moitié du IVe siècle et constituent des traductions de textes grecs du IIe et du IIIe siècle dans 2 dialectes coptes, donc des dialectes égyptiens, le saïdique, le dialecte du sud de l'Égypte, et le lycopolitain, un dialecte de la Moyenne Égypte. Et comme certains textes sont conservés 2 ou 3 fois dans cette collection, cela fait un total de 46 traités, pour la plupart inconnus jusque-là. Alors, parmi les textes de cette collection, quelques-uns sont quand même connus par des documents dans l'Antiquité. Dans le Codex 6, par exemple, il existe un fragment de la République de Platon, au livre 9, une petite page de Platon. Dans le même codex, on découvre un extrait du Discours parfait, attribué à Hermès Trismégiste, connu par une traduction latine dans l'Asclépius. Parmi les textes les plus célèbres de la collection de Nag Hammadi, il existe ailleurs, en parallèle aux textes coptes, des sentences grecques de l'Évangile selon Thomas, de la sagesse de Jésus-Christ, de la prière d'action grâce, une prière de l'ermitisme égyptien connue par le papyrus grec Mimo. Michel Tardieu, au Collège de France, avait découvert que le traité copte zostrien du Codex 8 a utilisé une source philosophique que l'on retrouve aussi chez le philosophe chrétien Marius Victorinus, le maître de saint Augustin, dans son traité contre les Ariens. quelques dizaines d'années, la découverte de Nag Hammadi a provoqué un nouvel intérêt pour les œuvres des hérésiologues chrétiens. Car on y trouve des références à des textes anciens dont on a perdu la trace, et parfois, les textes de Nag Hammadi exhument des textes connus dans l'Antiquité, mais dont on ne connaissait pas le contenu véritable, comme l'Évangile selon Thomas, par exemple, dont je vous ai donné avec le petit exemplier une photo de la première page. Je pense aussi à l'Évangile de vérité, dont on parle dans le texte d'Irénée, mais malheureusement sans citation et sans référence à un texte précis. Le cas différent, mais analogue, de l'Évangile de Judas, en dehors de la collection de Nag Hammadi, est tout aussi célèbre. Le texte copte, découvert seulement aux alentours de l'année 1983, est mis au jour sur Internet en 2006. Et du coup, on a pu comparer ce texte à ce qu'en disait Irénée dans le Contre les Hérésies, alors que le texte avait disparu depuis l'Antiquité. Le livre 1 du Contre les Hérésies d'Irénée expose un certain nombre de doctrines et de courants, même si Irénée n'abandonne pas sa perspective polémique. Il faut donc étudier Irénée avec prudence et ne pas prendre tout ce qu'il dit à la lettre. Aujourd'hui, trop de collègues, peu frottés aux traits de l'hérésiologie chrétienne ancienne, prennent les propos d'Irénée pour des faits historiques. Et comme Irénée a qualifié d'hérétiques ces groupes et ces mouvements, il faut bien distinguer ce qui relève de la construction hérésiologique d'Irénée et ce qui relève d'une information que transmet Irénée sur tel ou tel groupe, comme les Valentiniens, les Ébionites, les Martionites, les Ophites, les Caïnites, dont il est question dans le Contre les Hérésies d'Irénée. En conséquence, la recherche sur la collection de Nag Hammadi, mais aussi sur les notices des hérésiologues, sur ces différents groupes gnostiques, a entraîné une nouvelle approche de ce qu'on appelle la gnose et les hérésies. D'une part, le schéma historique héritier d'Irénée, qui prenait la foi chrétienne comme un phénomène premier, et les hérésies comme des déviations secondes de la foi primitive, ce schéma est maintenant abandonné. Il est vrai que le livre célèbre de Walter Bauer, Orthodoxie et hérésie au début du christianisme, l'original date de 1934 à Tübingen, mais il a été traduit en français seulement en 2009, ce livre avait ouvert la voie de cette remise en question bien avant les découvertes de Nag Hammadi. L'hérésie et les processus d'exclusion apparurent à partir d'un renforcement des structures ecclésiastiques face à la diversité des croyances et des pratiques religieuses, et ça dès la fin du IIe siècle. Et donc, il faut éviter de projeter dans le passé une notion d'hérésie à un moment où l'hérésie n'existe pas encore. De plus, les définitions de la gnose, souvent héritées aussi des hérésiologues de l'Antiquité, ont subi de nouvelles interrogations. Je prends par exemple le cas des Ébionites. Les Ébionites qui défendent une conception du Christ surtout comme un homme. Ces Ébionites ne sont plus aujourd'hui considérés comme des gnostiques, même si Irénée les traite de gnostiques. De même, les Martionites, dont vous avez entendu parler, si je comprends bien, la semaine dernière, les Martionites, disciples de Marcion, qui a prôné une conception de la foi chrétienne sans ses sources juives, aujourd'hui, ces Martionites ne sont plus considérés comme des gnostiques. Alors, que reste-t-il des gnostiques décrits par Irénée ? La recherche sur les textes de Nag Hammadi a permis une remise en question utile pour la définition de ce que sont les gnostiques. Comment les définir donc? Comme l'a remarqué Paul-Hubert Poirier, un collègue canadien de l'Université Laval au Québec, la catégorie de la connaissance, exprimée par un substantif, un adjectif ou un verbe, et je cite le texte numéro 2, n'est nullement opératoire. En effet, l'accès à une connaissance réputée supérieure, qu'elle soit d'ordre religieux, philosophique ou même ésotérique, est une catégorie que partagent à cette époque chrétiens, juifs, philosophes, théurges, alchimistes. Fin de citation. Pourtant, on rappelle souvent que cette catégorie de gnostique est perçue comme une auto-désignation des gnostiques, comme l'indique le philosophe Sels, comme on peut le voir dans Origène contre Cels, ceux qui se proclament gnostiques. Irénée, d'ailleurs, avait dit des disciples d'un certain Carpocrate qu'ils se décernent le titre de gnostique. Porphyre, même, qui intitule le traité 33 de son maître Plotin, c'est un traité contre les gnostiques. Ainsi, le terme gnostique désigne plutôt un qualificatif imposé par les adversaires des gnostiques, chrétiens ou philosophes, car les sources directes des gnostiques parlent beaucoup plus souvent de générations inébranlables, de générations sans roi, de descendants de Seth, le troisième fils d'Adam. Donc, l'appellation gnostique n'est pas très satisfaisante, car elle recouvre une très grande variété de groupes et de doctrines qu'il est difficile d'assimiler à quelques critères simples. De plus, je pense à un travail de Karen King, qui enseigne à l'université de Harvard. Elle avait montré dans sa monographie « Qu'est-ce que le gnosticisme ?» que les recherches gnostiques font souvent partie de stratégies universitaires, soit cherchant à définir l'identité chrétienne dans les premiers siècles du christianisme pour défendre une identité chrétienne orthodoxe, soit pour défendre une idéologie gnostique. Et donc, dans les travaux sur les gnostiques anciens, je pense qu'aujourd'hui, il faut inscrire la recherche sur ces textes gnostiques dans une perspective historiographique, indépendamment des affiliations confessionnelles ou religieuses. Et dans la ligne de Paul Hubert Poirier, je me contente de réutiliser ce terme gnostique, tel qu'il a été employé dans l'Antiquité, mais avec une approche de critique historique et littéraire sur les sources qui traitent des gnostiques. Ainsi, il faut lire le Contre les hérésies d'Irénée, mais avec les documents de Navgamadi, et vice-versa, confronter la documentation nouvelle avec le regard hérésiologique pour bien essayer de distinguer ce qui revient à l'un et à l'autre. Quand on voit l'importance que prend la critique du Dieu biblique chez les gnostiques, il faut les considérer d'abord comme des apprentis philosophes, des chrétiens baignés dans une atmosphère platonicienne, cherchant à comprendre le monde et les humains à partir de Platon et de la Bible. Et comme il s'agit de phénomènes des 2e et 3e siècles, on peut qualifier ce contexte gnostique de médio-platonicien, doublé de préoccupations éthiques plutôt d'origine stoïcienne. Alors, pour illustrer ce propos de manière un peu plus concrète, j'aimerais présenter quelques remarques sur trois mouvements gnostiques, les Valentiniens, les Sétiens et les Basilidiens, avant de dire aussi quelques mots sur les Manichéens. Donc voilà, trois mouvements gnostiques. Je commence par les Valentiniens. Ce mouvement des disciples d'un certain Valentin, philosophe à Alexandrie, est manifesté dès la première moitié du 2e siècle. Et si on commence par les Valentiniens, c'est parce qu'ils sont en fait les plus connus, les mieux représentés par des documents grecs, et maintenant par la documentation copte de Nag Hammadi. Si l'on fait confiance à Irénée, on peut dire que les Valentiniens confessent un Dieu Père de qui tout provient. Mais ils estiment que la création est le résultat d'une déficience. Ils confessent un seul Seigneur Jésus-Christ, mais ils distinguent entre la parole de Dieu, le Messie et le Sauveur. D'ailleurs, Irénée estime que les Valentiniens pensent comme les autres chrétiens, mais il les qualifie, lui, d'hérétiques à cause de leur doctrine secrète. En fait, ils ne constituent pas au IIe siècle une secte distincte des communautés chrétiennes. Il est parfois difficile de les distinguer des chrétiens ordinaires. C'est pourquoi la stratégie d'Irénée vise à rapporter leur doctrine au milieu des sarcasmes et des critiques pour montrer que les gnostiques sont plutôt des disciples de maîtres philosophiques, en leur déniant ainsi la qualité de chrétien. Jusqu'à la découverte des textes de Nag Hammadi, Irénée était considéré comme la source principale d'accès aux Valentiniens. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent et l'on évalue la documentation irénéenne à partir des sources coptes nouvelles. Parmi les critiques récurrentes d'Irénée contre les Valentiniens, on trouve que les Valentiniens attribuent la création du monde non pas à un dieu suprême, mais à un dieu inférieur au dieu des philosophes, le dieu biblique de la Genèse. Ce dieu inférieur au dieu des philosophes. C'est dire l'intérêt des Valentiniens pour un scénario de la création, hérité en fait du Timée de Platon, mais avec des éléments tirés des textes bibliques, des premiers chapitres de la Genèse. Irénée se plaint de la distinction entre chrétiens dits psychiques et d'autres que les gnostiques appelleraient pneumatiques. Selon les Valentiniens, en effet, les psychiques seraient les membres des communautés chrétiennes qui n'auraient qu'une compréhension du christianisme dépendant de l'âme, la psyché, à la différence des chrétiens d'un rang supérieur qui auraient, grâce aux connaissances des gnostiques, une compréhension du christianisme inspirée par l'esprit, donc des chrétiens spirituels. D'où un intérêt chez les Valentiniens pour la figure de la sagesse divine au cœur du système. S'appuyant sur des spéculations juives sur la sagesse tirées du livre biblique des Proverbes, en particulier le chapitre 8, ou la sagesse de Salomon, au chapitre 7, les Valentiniens ont créé une figure de la sagesse intermédiaire entre les mondes divins et humains. La sagesse est devenue un modèle pour l'âme humaine. Et le récit mythique de la recherche d'Hubert par Sophia, la sagesse, aboutit à une série d'émotions expliquant la création de l'univers et la conversion de Sophia, modèle de l'âme des gnostiques, dans le chemin vers le salut. Les sources valentiniennes directes illustrent combien l'approche d'Irénée est partiale et orientée. Mais les Valentiniens, en effet, préfèrent une forme de christianisme qui pousse l'âme à vivre une vie qui n'est pas soumise à l'emprise des passions et des émotions, un peu à la manière des stoïciens. Une fois encore, il faut dire que l'œuvre d'Irénée est utile, mais elle ne peut pas servir de critère pour juger de la qualité des propos valentiniens. Que connaissons-nous des œuvres valentiniennes ? Irénée présente Valentin à la tête d'une école, un didascalion. Il enseignait en effet à Alexandrie avant d'aller vers les années 140 à Rome où il séjourna 15 ou 20 ans. Il fut certainement un enseignant réputé dans ces deux grandes villes, mais il ne reste de ses œuvres que quelques citations, préservées par les œuvres de Clément d'Alexandrie par exemple. Alors je cite dans le texte numéro 3, le Stromate de Clément d'Alexandrie 3, où Clément cite une lettre de Valentin à un certain Agathopous à propos de Jésus. Je cite, « En supportant tout, il était continent. Jésus pratiquait la divinité, il mangeait et buvait d'une manière qui lui était propre, sans rejeter les aliments. Telle était la force de sa continence, que la nourriture en lui ne se corrompait pas, puisque lui-même n'avait pas le principe de la corruption. » Fin de citation. Un tel portrait de Jésus peut paraître bizarre. Valentin voulait une représentation d'un Jésus qui mangeait et buvait, comme dans les évangiles canoniques. En même temps, il tenait à affirmer le caractère divin de Jésus au-delà du monde de la corruption. Et des études récentes ont montré que Valentin s'est en fait inspiré de portraits légendaires de sages grecs comme Pythagore ou Épiménide. Ce qui frappe, c'est l'écart flagrant entre ce portrait de Jésus par Valentin et celui de la christologie de Valentin selon Irénée. Un commentateur des fragments conservés de Valentin, Christophe Marchis, qui enseigne à Berlin, a démontré brillamment que Valentin était en fait un philosophe chrétien de la première moitié du IIe siècle. Alors, parmi les disciples de Valentin, il nous reste aujourd'hui au moins quatre œuvres ou traces d'œuvres littéraires d'un Ptolémée, Héracléon, Théodote et Marc. Ptolémée, non pas le grand Ptolémée, que l'on connaît par les textes de l'Antiquité et son histoire naturelle, mais le Ptolémée gnostique qui a rédigé l'un des premiers traités d'herméneutique biblique avec sa lettre à Flora, rapportée par Épiphane in extenso au IVe siècle. Avant qu'il n'y ait un canon des écritures bibliques, Ptolémée encourage Flora, une dame inconnue par ailleurs, à lire la Bible juive avec une compréhension chrétienne de l'Ancien Testament. Selon Ptolémée, la loi du talion, par exemple, ne peut pas provenir du Dieu suprême. À côté de Ptolémée, Héracléon, un exégète alexandrin, fut le premier commentateur de l'Évangile de Jean. Et ce commentateur fut réfuté par Origène un siècle plus tard. De Théodote et d'autres valentiniens, Clément d'Alexandrie rassemble une série de 80 extraits publiés dans les sources chrétiennes par le père Sania, avant les découvertes de Nag Hammadi. On retrouve ainsi des propos originaux que l'on peut comparer et utilement à Irénée et maintenant aussi au texte copte. Le quatrième, Marc, les seules informations sur son système ne sont transmises que par Irénée, qui l'affuble du titre de mage pour le disqualifier. Marc, c'est un autre valentinien qui utilise les méthodes de l'exégèse allégorique qu'on connaît à Alexandrie, avec des spéculations particulières sur les nombres. Quand on considère maintenant la documentation copte de Nag Hammadi, les sources directes des valentiniens ont quintuplé en taille. Tout le Codex I transmet près de 140 pages de textes valentiniens nouveaux. La prière de Paul, l'épître apocryphe de Jacques, l'évangile de vérité, un traité sur la résurrection et un très long traité appelé traité tripartite, parce que partagé en trois parties. Dans le Codex II, on trouve l'évangile selon Philippe, peut-être le traité sur l'exégèse de l'âme. Dans le Codex V, une apocalypse de Jacques. Dans le Codex XI, l'interprétation de la connaissance et l'exposé valentinien. Dans le Codex XII, un extrait de l'évangile de vérité. La prière de Paul et l'évangile selon Philippe rapportent des paroles de Jésus, au-delà de l'évangile de Thomas. L'évangile selon Philippe et l'exposé valentinien explicitent des pratiques sacramentelles liées au baptême et à l'Eucharistie. Le traité tripartite offre une version détaillée du mythe du salut avec la chute de Léon Logos, non pas Sophia comme chez Irénée, le scénario de la création, le sort des trois sortes d'humains, les iliques, les terrestres, les psychiques et les pneumatiques. De toutes ces documentations nouvelles, il ressort un portrait différent de la christologie et de la sotériologie des valentiniens. Les premières lignes de l'évangile de vérité donnent le ton, et j'aimerais vous donner un exemple d'un de ces beaux textes presque poétiques, l'évangile de vérité, et vous avez au texte numéro 4 cette citation des premières lignes de l'évangile de vérité. Joyeuse est la bonne nouvelle de la vérité, pour ceux qui ont reçu de la part du Père de la vérité la grâce de le connaître, par la puissance de la parole qui émana de la plénitude, parole qui résidait dans la pensée et dans l'intelligence du Père. C'est elle qui est dénommée Sauveur, car tel est le nom de l'œuvre qu'elle devait accomplir pour le salut de ceux qui en sont venus à ignorer le Père. Tandis que le nom de Bonne Nouvelle est la révélation de l'espoir, puisque pour ceux qui sont à sa recherche, il signifie la découverte. Voilà le début de l'évangile de vérité, une sorte de commentaire du prologue du quatrième évangile sur la parole qui est auprès du Père. Par bonne nouvelle, évidemment, dans cette traduction, il faut entendre le terme grec traduit par évangile, le terme grec que l'on trouve dans le texte copte. Et dans l'évangile de vérité, on a en fait l'évocation de l'histoire de Jésus, présentée comme celle d'un didascale enseignant dans des écoles la parole de Dieu. Jésus fut persécuté par la figure personnifiée de l'erreur, jusqu'à être crucifié sur une croix, je cite, « devenant ainsi le fruit de la connaissance du Père ». La crucifixion devient ainsi l'antithèse de l'arbre du Jardin d'Éden. Et quand on rassemble les informations des textes grecs et coptes avec les sources des hérésiologues, en fait, le système est assez cohérent, même s'il renvoie souvent à des méthodes allégoriques. Le Sauveur est composé de trois sortes de corps. Un corps pneumatique, issu de la plénitude céleste, un corps psychique appartenant au monde de la création du démiurge et un corps incarné qui souffre sur la croix. Le salut est alors décrit comme un drame cosmique, partant du plérôme, la plénitude divine, et finissant avec le salut de ceux qui acceptent l'initiation à la gnose valentinienne. Les extraits de Théodote rapportent le même type de scénario, avec la venue d'un sauveur qui permet à Sophia d'être séparée de ses passions quand il vient sur la terre. Il souffre sur la croix en extrayant les passions de son corps mortel et en offrant ainsi aux humains la possibilité d'être libérés de leurs passions. La sociologie valentinienne apparaît ainsi comme sous les traits d'une philosophie morale d'aspect stoïcien. Un collègue d'Underberg en Finlande qualifie ce système de thérapie stoïcienne des émotions. En conséquence, le portrait irénéen de la doctrine valentinienne ne peut plus tout à fait être maintenu. Irénée insiste sur le caractère fixiste et déterministe des catégories humaines. Il parle de race illique, psychique, pneumatique. Comme il n'est guère possible de changer de race, l'enjeu moral de la théologie valentinienne disparaît dans cette perspective irénienne. À l'inverse, les valentiniens proposent de passer précisément de la catégorie de illique à psychique et de psychique à pneumatique, grâce à la maîtrise du libre arbitre. Ainsi, bien avant Irénée, donc dès la première moitié du IIe siècle, les valentiniens sont les premiers philosophes chrétiens à exprimer la foi chrétienne avec la pratique du libre arbitre. Je passe maintenant au gnostique sétien. Vous me direz si je dépasse l'heure de la première séquence. Pour l'instant, il y a encore quelques minutes, donc je continue. Les gnostiques sétiens renvoient à la figure biblique de Seth, le troisième fils d'Adam. Il correspond néanmoins à un sobriquet inventé par les hérésiologues. La recherche sur la gnose sétienne remonte principalement à une hypothèse lancée par Hans Martin Schenkel, un théologien allemand, en 1971 à Berlin. Celui-ci avait remarqué que certains textes gnostiques différents des valentiniens utilisaient un certain nombre de termes exotiques pour parler du Dieu créateur et de ses acolytes. Le Dieu créateur s'appelait Yaldabaoth, l'engendreur des puissances. Il était entouré de quatre entités dont les noms revenaient aussi souvent ensemble, Armozel, Oroyael, Dabeite et Lelet. Et comme Hans Martin Schenkel croyait à l'existence d'une gnose pré-chrétienne, il a aussi considéré que les textes sétiens, qui avaient des éléments chrétiens, avaient en fait des éléments qu'il qualifiait, lui, Schenkel, que d'additions secondaires. En quelques années, l'hypothèse d'une gnose sétienne s'est répandue en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Mais je ne voudrais pas entrer ici dans une discussion sur cette hypothèse. On peut en tout cas souligner que ces recherches sur la gnose sétienne ont surtout contribué à redécouvrir les dimensions philosophiques des systèmes gnostiques des 2e et 3e siècles. D'après la vie de Plotin, au chapitre 16, rédigé par le disciple Porphyre, Plotin a combattu des gnostiques dans son école de philosophie à Rome. D'après Plotin, ces gnostiques lisaient des apocalypses, comme celles de Zoroastre, Zostrien, Nicothée, Halogène, Messos. Deux de ces textes mentionnés par Plotin se trouvent attestés par une version copte dans la collection de Nag Hammadi, texte de Zostrien et Halogène. La découverte en 1995 par Michel Tardieu d'une source philosophique médio-platonicienne sur le premier principe utilisé par l'Apocalypse de Zostrien est en fait aussi utilisée par Marius Victorinus. Et cette découverte a provoqué un véritable tremblement de terre parmi les recherches sur Plotin et sur les successeurs néo-platoniciens. Depuis l'Antiquité, on savait que Plotin avait combattu des gnostiques. Et c'est le fameux traité 33 contre les gnostiques. Mais depuis quelques décennies, la polémique antignostique de Plotin a été caractérisée surtout dans le groupe des traités 30 à 33, sur la cinquantaine des traités de Plotin. Mais depuis quelques années, on s'aperçoit que cette polémique antignostique de Paul Hautain émerge dans d'autres traités encore que les traités 30 à 33. On voit que cette dimension antignostique, en fait, émerge dans une autre série de textes de Plotin. Et donc, aujourd'hui, parmi les spécialistes de l'histoire de la philosophie platonicienne, il est souvent difficile de faire admettre la contribution de la contribution philosophique des gnostiques dans les travaux de Plotin. C'est quelque chose qui est en pleine discussion ces temps-ci, mais il est vrai que Plotin critiquait l'usage gnostique de leur compréhension du démiurge, du créateur de l'univers. Il pensait d'ailleurs que les gnostiques n'étaient pas vraiment de vrais philosophes. Et puis dans ce même traité 33 contre les gnostiques, Plotin critiquait aussi l'usage d'une terminologie qui renvoyait à l'ascension de l'âme. Celle-ci passait par plusieurs étapes, selon lui, pour remonter vers les lieux intelligibles. Ça s'appelait la copie des éons, le séjour, la repentance. C'est précisément cette terminologie que l'on retrouve dans le traité copte zostrien. Plotin a donc connu ces précisions dans une version grecque de l'Apocalypse de Zostrien, avant le milieu du IIIe siècle, à Rome. Ce genre de recherche aboutit à resituer la contribution philosophique des gnostiques dans un environnement médio-platonicien, ou on pourrait dire aujourd'hui un platonisme à époque impériale, proche des grandes figures au IIe siècle comme Alcinoos ou Numinus, dans leur façon d'approcher la transcendance divine. J'aimerais vous donner un autre exemple, tiré du Collexons, Halogène. La quête du Dieu transcendant correspond à une expérience spirituelle d'un visionnaire, et c'est le texte numéro 5. Par une révélation de celui qui est indivisible et qui est dans la quiétude, je fus envahi par une révélation. Par une révélation première de l'inconnaissable, comme si je ne le connaissais pas. Je le connus, et je reçus de sa puissance, ayant reçu en moi une force éternelle. Je reconnus celui qui existe en moi, et le trois fois puissant est la révélation de ce qui, de lui, ne peut être saisi. Et par une révélation première, émanant du premier inconnu de tous, je vis le Dieu qui est au-delà de la perfection. » Fin de citation, tiré du Collexons de Nagamadi. On reconnaît dans cette quête de la transcendance, aux pages 61-63 de ce traité, l'usage de catégories qu'on peut trouver dans des commentaires du traité Parménide de Platon. Il existe, je reconnais, un débat sur la date de ces commentaires platoniciens au IIe ou au IIIe siècle. Mais il faut reconnaître que bien avant les expériences des moines du désert égyptien ou des moines en Cappadoce au cours du IVe siècle, les textes coptes de Nagamadi, comme Halogène, mais aussi Zostréen, les trois stèles de Seth ou Marsanès, attestent des antécédents grecs qui méditent sur le Dieu inconnaissable des philosophes. Ces traités manifestent une certaine homogénéité dans leur compréhension des trois niveaux de la réalité, le préexistant qui correspond à l'inconnaissable des philosophes, le niveau de Barbello, le terme que l'on trouve dans ces traités sétiens, ressemble à l'intellect divin du médioplatonisme ou du néoplatonisme. Quant à la nature, c'est le niveau inférieur de la déficience du monde d'ici-bas. Ainsi, malgré l'ambiguïté de la catégorie gnose sétienne, les textes sétiens contiennent en fait une riche terminologie que les philosophes, les théologiens et les historiens des doctrines chrétiennes devraient pouvoir étudier ensemble. Mon troisième exemple, je le tire des gnostiques basilidiens. Basilide est aussi un philosophe chrétien situé à Alexandrie au IIe siècle, présent dans les années 120-140. Et comme dans le cas de Valentin, on ne connaît que des bribes de Basilide, grâce en particulier à Clément d'Alexandrie. Mais il y a d'autres traces des basilidiens chez les hérésiologues, Irénée, l'Hélénkos du pseudo-Hippolyte, Épiphane, et aujourd'hui, deux textes de la collection de Nagamadi, le traité du Grand Seth au Collecte 7 et l'Apocalypse de Pierre aussi au Collecte 7. Aujourd'hui, il me semble qu'on peut être un peu plus confiant dans un regard croisé sur les hérésiologues et les traités de Nagamadi, car l'Hélénkos du pseudo-Hippolyte explique certains traits de texte copte, et en retour, l'Apocalypse de Pierre, copte, peut expliquer certains traits curieux de la notice de l'Hélénkos. La notice d'Irénée sur les Basiliens est très succincte. Elle décrit d'abord le Panthéon avec une octoade d'entité, une structure cosmologique très compliquée de 365 cieux pleins d'anges. Dans le ciel inférieur, le plus près de la terre, les anges se divisent en territoires et entre nations, et ça aboutit à une guerre entre nations, particulièrement une guerre contre la nation juive. Ceci, en fait, correspond à la situation sociopolitique d'Alexandrie, particulièrement au début du IIe siècle. Ce conflit provoque l'intervention du Dieu transcendant, distinct et supérieur au Dieu de la Bible. Ce Dieu envoie son fils premier-né, l'intellect, pour délivrer et sauver les humains de la domination des archontes responsables de la création, et création du cosmos et la création des êtres humains. Et Irénée résume ainsi l'incarnation du Sauveur dans les termes suivants, c'est le texte numéro 6. Il apparut aux nations de ces archontes sur terre sous la forme d'un homme, et il accomplit des prodiges. Par conséquent, il ne souffrit pas lui-même la passion, mais un certain Simon de Cyrène fut réquisitionné et porta sa croix à sa place. Et c'est ce Simon qui, par ignorance et par erreur, fut crucifié après avoir été métamorphosé par lui pour qu'on le prît pour Jésus. Quant à Jésus lui-même, il prit les traits de Simon et, se tenant là, se moqua de ses archontes. Étant en effet une puissance incorporelle et l'intellect du Père inengendré, il se métamorphosa comme il voulut et c'est ainsi qu'il remonta vers celui qu'il avait envoyé en se moquant d'eux, parce qu'il ne pouvait être retenu et qu'il était invisible à tous. Ceux donc qui savent, les gnostiques, ceux-là ont été délivrés des archontes auteurs du monde. Fin de citation. On remarquera que tout ce scénario est présenté comme un résumé de la gnose des Basilidiens, ceux qui savent cela. Mais à l'heure actuelle, aucune source des Basilidiens ou sur les Basilidiens ne confirme le scénario de la crucifixion de Simon de Cyrène à la place de Jésus. Il est vraisemblable que les propos d'Irénée proviennent en fait d'une interprétation biaisée d'une source grecque qui a donné lieu à la traduction en copte d'un des traités de Nag Hammadi, le second traité du Grand Sept. Dans ce traité, on peut lire en effet le scénario de la crucifixion avec un Simon de Cyrène qui, comme dans les évangiles, porte la croix sur ses épaules et où le Sauveur se réjouit au-dessus de la croix, mais sans la crucifixion de Simon de Cyrène. L'objectif de la présentation basilidienne de la crucifixion constitue à distinguer le corps souffrant du crucifié et la figure rieuse du Sauveur au-dessus de la croix. Mais ici, rien n'est dit de la crucifixion de Simon, comme chez Irénée. Le rire du Sauveur a généré une très vaste bibliographie, et surtout depuis la publication, depuis 2006, de l'Évangile de Judas, qui mentionne aussi le rire du Sauveur. Mais le propos d'Irénée est très clair, car il construit sa notice sur Basilide et les Basilidiens en parallèle à la précédente, sur un certain Sartre Ninurs, et dans les deux cas, ces gnostiques affirment une conception d'ossète de Jésus, un Jésus sans corps réellement incarné, un Sauveur non orthodoxe, en fait. Une lecture précise du second traité du Grand Sept ne peut pas être assimilée à ce que dit Irénée de manière polémique. Certes, la christologie est originale, car le fils premier-né du Père est son intellect. Par définition, un intellect ne peut pas souffrir. En revanche, la souffrance d'un corps mortel sur la croix n'est pas du tout niée, contrairement à ce que dit Irénée. Les Basilidiens distinguaient le corps mortel, souffrant sur la croix, le corps psychique du Sauveur qui remonte après la croix vers le domaine du Dieu créateur et un corps spirituel qui appartient au domaine de l'Esprit-Saint, au-dessus du monde du Démiurge. Basilide est un théologien du IIe siècle qui est connu pour sa réflexion sur la souffrance, d'après le témoignage de Clément d'Alexandrie, et la christologie originale d'un Sauveur, intellect divin, n'est pas devenue l'option philosophique majoritaire de l'école d'Alexandrie, où plus tard, Origène élaborera une christologie du logos, parole ou raison divine. Pour bien comprendre la position des basiliens, il faut reconnaître que le salut est décrit comme un processus cosmique de filtrage des éléments du cosmos. Comme dans un processus chimique qui cherche à extraire les bonnes particules de lumière de la matière mélangée du monde, la venue du Sauveur sur Terre doit effectuer ce processus de filtrage que la notice de l'Hélénkos désigne par le terme grec de phylokrinesis, la distinction entre les éléments de la matière pour purifier le monde de son mélange originel. Et la gnosis insiste même sur la crucifixion qui manifeste cette séparation des éléments dans le corps même du Jésus crucifié. Il faut comprendre, au-delà de ces formules, un débat explicite des basilidiens avec des positions héritées des lettres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, lui qui, dans 1 Corinthiens 2 par exemple, ne connaissait qu'un Christ crucifié. Pour les basilidiens, il s'agissait de dévaloriser cette christologie paulinienne qui ne pensait qu'au corps du crucifié, il vantait plutôt un sauveur spirituel. Et on perçoit là des débats théologiques dans ces querelles. De la même façon, le grand 7 visait à développer une conception d'une église fraternelle et c'était en fait une critique de la mise en place d'une hiérarchie épiscopale au IIe siècle, perçue par les basilidiens comme un héritage des archontes des Murges ou du judaïsme de l'Ancien Testament. Ces controverses sont nées pratiquement autour des rituels du baptême et surtout des pratiques de repentance postérieures au baptême, comme on peut d'ailleurs le voir aussi dans le Pasteur d'Hermas, un autre texte du IIe siècle au milieu de ce siècle. Voilà ce que je voulais dire sur les basilidiens. Alors, il me reste encore quelques minutes pour parler de la religion manichéenne, qui aurait pu être l'ensemble de la soirée de ce soir, mais il me faut quand même parler de la religion manichéenne. La religion manichéenne doit son nom à son fondateur, Mani, né en 216, un prophète contemporain de l'avènement de la dynastie des souverains sassanides en Iran. On situe l'origine de Mani dans une communauté de courants judéo-chrétiens baptistes, El-Kassaïtes, en Babylonie. Les El-Kassaïtes, c'était effectivement une sorte de groupe judéo-chrétien de prophètes qui revendiquait un prophète El-Kassaï. En même temps, la découverte d'un codex miniature, codex manichéen de Cologne, il y a quelques 40 ans, rapporte la biographie de Mani qui permet aujourd'hui de comprendre mieux les origines judéo-chrétiennes baptistes de Mani. Et ça explique aussi la connaissance que Mani pouvait avoir de la prédication de Jésus. Quand Mani est exclu de sa communauté vers l'an 240, il commence à répandre sa doctrine avec un petit groupe de disciples dans la région de Séleucie-Ctésiphon. Alors que le souverain Chabour monte sur le trône en 242, Mani parvient à convertir quelques années après cela l'un des frères du souverain, Mircha, puis un autre frère encore un peu plus tard, Pérose. Et ceci permet à Mani de rencontrer le souverain lui-même en 252 afin d'obtenir de lui la permission de répandre sa doctrine sans être inquiété par les responsables de la religion zoroastrienne, majoritaire en Iran. Pendant une vingtaine d'années, Mani profite ainsi de la tolérance accordée par le pouvoir jusqu'au moment où les successeurs de Chabour, Hormis le premier et surtout le second successeur Vahram Ier, en décident autrement à cause du chef de la religion zoroastrienne, Kirdir, qui parvient à faire emprisonner Mani afin de le faire mourir en prison sous le poids de chaînes en 276 ou 277. Mani prêche sa doctrine avec une visée universaliste en intégrant dans sa perspective prophétique les grandes figures de Zoroastre, Bouddha, Jésus. Et il envoie ses disciples aux quatre coins de l'Iran sassanide, et progressivement en Arménie, puis à l'est et à l'ouest de l'Iran. Le manichéisme arrive ainsi dans le bassin méditerranéen grâce à un certain Pateg et Hadas, le personnage d'Adimante dont parle saint Augustin, manichéisme s'établit en Palestine, à Eleutheropolis, avec un certain Marzakou, d'après Épiphane de Salamine. Il gagne l'Égypte avec les apôtres Thomas et Papos vers les années 268-70, sans doute à cause de l'intervention des armées du royaume de Palmyre sous le contrôle de la reine Zénobie. D'après les sources manichéennes, Mani avait réussi en effet à convertir la sœur de la reine Zénobie, Nafcha. Et quelques années plus tard, l'empereur Aurélien parvient à reconquérir le royaume de Palmyre, mais les manichéens ne s'arrêteront pas là et continueront à s'établir en Égypte à partir d'Alexandrie et le long du Nil jusqu'à Lycopole, en pleine Moyenne-Égypte, où ils établissent apparemment leur quartier général. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le manichéisme n'est donc pas une dissidence du christianisme, comme l'historien Eusèbe de Césarée l'a exprimé dans son Histoire ecclésiastique au IVe siècle. Et comme on le répète souvent, depuis lors, jusque dans les articles de dictionnaire que l'on trouve ici ou là, le manichéisme représente une religion à part entière qui a pénétré dans l'Empire romain au milieu du IIIe siècle et qui s'est développée en Orient jusqu'en Chine, où l'on trouve des traces de la vénération d'une figure de Mani, Bouddha de lumière, jusqu'au XXe siècle. La polémique contre les manichéens maintenant. La présence des manichéens en Égypte a orienté le cours de l'histoire quand en 302, l'empereur Dioclétien fait un voyage et qu'il entend parler des manichéens sur la base d'un rapport du proconsul d'Afrique contre les activités missionnaires des manichéens. Et comme ces manichéens venaient de l'Empire sassanide, ils étaient perçus dans l'Empire romain comme des espions ou des soutiens du pouvoir iranien. Le rescrit de Dioclétien, pour restreindre la stratégie d'expansion du manichéisme dans l'Empire romain, constitue le premier d'une série de prescriptions impériales visant à persécuter les manichéens à la veille de la grande persécution de 303 contre les chrétiens. Ce rescrit rappelle le thème fréquent de l'inimitié des Perses envers les Romains et vise à éradiquer une secte nouvelle qui risque de renverser les coutumes traditionnelles des Romains par l'introduction de, je cite, les lois perverses des Perses. Il se peut très bien que le rescrit renvoie aux coutumes alimentaires végétariennes des manichéens, mais plus vraisemblablement, l'ascèse manichéenne pouvait être perçue comme une critique implicite des coutumes matrimoniales romaines. Le manichéisme était en effet divisé entre élus et auditeurs. Les élus menaient une vie d'ascèse stricte, tout en étant responsables de la prédication, de l'enseignement, de la vie liturgique des communautés manichéennes. Les seconds, les laïcs, pouvaient se marier, fonder une famille, mais étaient tenus à fournir la nourriture et le logement aux élus. Ils étaient ainsi censés parfois prendre en charge financièrement d'autres besoins liés à la responsabilité des élus, comme leurs vêtements, leurs voyages, le matériel pour la copie des manuscrits. Comme le rescrit de Dioclétien ne suffit pas à arrêter l'expansion du manichéisme, on retrouve vers la fin du IVe siècle des écrits anti-manichéens qui cherchent à priver les manichéens de leurs moyens de fonder de nouvelles communautés. Et sans viser explicitement le manichéisme égyptien, un édit de l'empereur Valentinien en 372 interdit les réunions sous forme de conventus, dans les maisons particulières, des assemblées de ce genre, dit le texte. L'empereur Théodose, un peu plus tard, publie un édit en 381 qui prive les manichéens de la possibilité de vivre selon le droit romain et en fait les prive de transmettre un patrimoine aux communautés manichéennes ou aux enfants des couples d'auditeurs manichéens, à moins de renoncer à leur confession de foi. Cet édit interdit encore les lieux de réunion, les pratiques funéraires des manichéens, comme la célébration aussi de la mort de Mani lors de la fête du Béma, le temps fort de l'année liturgique des manichéens, leur sorte de Pâques des manichéens. Cette loi traque les ascètes qui se reconvertissent dans les rangs des ascètes chrétiens, au sein des communautés chrétiennes, ou même dans les communautés monastiques. Et d'autres lois de 382 et 383 renforcent encore ces interdictions évoquées. Alors que l'Empire s'organise avec Théodose comme un empire chrétien, il lutte en même temps contre toute forme d'hérésie. En choisissant une forme stricte d'ascèse, les manichéens dévalorisent le mariage et prône des pratiques d'entraide charitable. On voit par ces édits anti-manichéens que les pratiques d'ascèse radicale sont perçues comme une sorte de ferment possible de contestation sociale. Or, c'est à peu près à cette période qu'Augustin rejoindra les rangs des manichéens, les auditeurs, les catéchumènes, en 373, avant de rencontrer l'évêque manichéen Faustus en 382-383, qui finalement débouchera pour Augustin à son rejet du manichéisme et à la rédaction, bien plus tard, d'un traité contre Faust en 398-403. J'ai la chance de participer au projet d'une édition et traduction de ce traité contre Faust dans la bibliothèque augustinienne, dont deux tomes ont déjà été publiés en 2018 au volume 18A et en 2020 au volume 18B. Nous sommes en train de terminer le troisième tome qui, j'espère, paraîtra d'ici une bonne année. J'ai, en travaillant avec des collègues spécialistes d'Augustin, on voit que de même, il faut lire Irénée ou le philosophe Plotin avec un regard critique sur les gnostiques, il faut aussi interpréter le propos d'Augustin à partir de ses positions hérésiologiques et ne pas croire tout ce que dit Augustin sur les manichéens avant de les confronter avec les sources directes. Qu'est-ce qui nous reste des écrits manichéens? On sait que les manichéens avaient un canon d'écriture avec une série de textes dont on n'a que des citations ici ou là. Il faut mentionner, au-delà de l'évangile de Mani, le trésor de Mani, les légendes, le livre des géants, des psaumes, des prières, le fameux livre d'images. L'image, c'est en fait un ensemble de planches peintes par Mani, spécialiste lui de la miniature persane. C'est un très célèbre livre d'images, une sorte de bande dessinée, qui a circulé pendant plusieurs siècles et qui a impressionné plus d'un non-manichéen, et en particulier les érudits arabes encore au XIIe, XIIIe siècle de notre ère. Aujourd'hui, on pense retrouver une partie de son inspiration dans des peintures chinoises du XIVe siècle, conservées au Japon, et dont la facture manichéenne a été récemment identifiée par un collègue japonais, Yoshida. Parmi les pages de papyrus découvertes en Égypte en 1929-1930, aucune ne correspond à l'un ou l'autre de ces écrits canoniques de l'Église manichéenne. Mais pourtant, on dispose de textes importants pour la transmission de la doctrine manichéenne. Les écrits manichéens coptes comportent essentiellement des prières liturgiques, des homilies, et des chapitres de commentaires doctrinaux, des Kephalaya. Le très gros volume des Kephalaya coptes comporte, imaginez, 800 pages de papyrus consacrées à commenter les paroles de Mani pour répondre aux questions des disciples sur différents points de doctrine. Cette compilation de commentaires cherche à expliquer certains détails mythologiques du système manichéen. Il est vraisemblable que cette construction dogmatique en fait, cherche à répondre aux critiques des zoroastriens et des chrétiens adressées au manichéisme. Or, comme les systèmes du macrocosme de l'univers et du microcosme humain sont organisés de façon analogue dans le système manichéen, il faut comprendre chaque détail de la mythologie manichéenne avec sa place dans l'exposé d'ensemble qui permet une lecture allégorique des rapports entre le monde divin et le monde humain. Le codex des prières liturgiques coptes de l'Église manichéenne correspond à un magnifique psautier de près de 600 pages de papyrus conservé à la bibliothèque de la Chester Beatty à Dublin. Seule la deuxième partie, la plus lisible, a été pour l'instant éditée par un certain Albury, mais en 1938, nous n'en avons pas encore aujourd'hui une traduction française complète. Et depuis cette édition, plusieurs parties de ce psautier ont été éditées et commentées. Grâce à un index conservé à la fin du volume, on peut constater que les psaumes manichéens ont été numérotés, groupés, selon leur auteur présumé ou leur fonction liturgique. On a ainsi des psaumes pour l'assemblée liturgique, pour les psaumes pour le dimanche, pour la Pâque, des psaumes d'Héraclide, des psaumes pour les vigiles, pour la fête annuelle du Béma, des psaumes adressés aussi à la figure de Jésus, et encore des psaumes d'Héraclide. Plusieurs psaumes n'ont pas d'usage liturgique spécifié et figurent dans une rubrique de divers, alors que d'autres psaumes encore non numérotés ont été ajoutés à cette collection déjà très riche. Alors, pour illustrer ce genre de poésie liturgique des manichéens, voici un dernier texte, un psaume dédié à l'âme du manichéen, tiré des psaumes des errants. C'est le texte numéro 7. Si l'âme se souvient de son origine céleste, elle pourra passer à travers les difficultés de la vie et rejoindre ses frères spirituels dans la patrie céleste. Âme, ô âme, souviens-toi de tes éons. Âme, d'où viens-tu? Souviens-toi. Tu es venue de la hauteur. Tu es une étrangère au monde, visiteuse de la terre parmi les hommes. Tu as tes demeures dans les hauteurs, tes tabernacles d'allégresse. Tu as ton père véritable, ta mère véritable. Tu as tes frères véritables. Tu es une guerrière. Tu es cette brebis fourvoyée dans le désert. Ton père te recherche. Ton berger est en peine de toi. Tu es la vigne, celle qui a 5 rameaux. La nourriture des dieux, la provente des anges, celle qui revêt les justes, la robe des anges. Tu es l'intellect des parfaits, tu es la pensée des croyants, etc. etc. Vous avez le texte jusqu'à gloire et honneur à Jésus. La doxologie finale, Jésus le roi des saints, victoire à l'âme de la bienheureuse Marie. Ce psaume, comme plusieurs autres de cette collection, est accompagné d'un refrain que l'on place habituellement en tête de l'hymne. Les exhortations à l'âme font appel à des métaphores tirées de textes bibliques. Les deux dernières lignes constituent la conclusion adressée à la figure de Jésus, l'intellect lumière, chargé d'illuminer et de conduire l'âme de tout manichéen. Quant à la bienheureuse Marie, il s'agit en fait d'une Marie manichéenne, sans doute morte martyre. Si l'ensemble des textes évoqués jusqu'à présent a considérablement permis de progresser dans la compréhension de la mythologie manichéenne au cours du XXe siècle, les recherches archéologiques dans un site antique à Kélis, dans l'Eurasie égyptienne du désert libyque de Dakhla, permet maintenant un nouveau type d'approche du manichéisme. Grâce à la découverte d'un ensemble de 3 maisons, où on a trouvé des documents manichéens datés du IVe siècle, on peut aborder l'histoire du manichéisme aussi avec les traces laissées par des manichéens historiques qui ont vécu dans l'oasis depuis le tout début du IVe siècle jusqu'à la fin du IVe siècle, date à laquelle sans doute le site a été abandonné. Sur la base de quelques renseignements donnés par un corpus de lettres personnelles, les archives d'une famille sur plusieurs générations, on peut faire cette hypothèse que les manichéens sont venus à Kélis pour échapper à la persécution qui les visait en 302. Ils ont abandonné le site lors des mesures renouvelées contre eux à la fin du même siècle, sous Théodose. Bref, j'aimerais bien vous parler encore, mais je vois que l'heure avance, il faut que j'en arrive bientôt à une conclusion. Il existe bien d'autres textes encore à découvrir parmi les documents issus de la fouille manichéenne de Kélis. Malheureusement pour nous, les grands textes doctrinaux n'ont pas été laissés sur place quand les manichéens sont partis. Ils ont dû emporter leur bibliothèque avec eux. Mais le nombre de textes documentaires grecs et coptes permettent un certain nombre d'hypothèses sur leur mode de vie, sur les relations qu'ils ont pu entretenir avec les autres habitants de l'oasis. Je pense en particulier à la maison manichéenne numéro 2. Elle devait abriter un sympathisant du manichéisme qui avait quelques moyens financiers. Il devait être un maître d'école à Kélis, un personnage de la vie publique. Dans cette maison, on a retrouvé des exercices d'écriture, mais imaginez-vous aussi le plus ancien codex grec sur papyrus, connu, du rhéteur Isocrate, 436-338. Isocrate servait à faire apprendre la rhétorique dans les écoles de l'Antiquité. Ainsi, en plein désert, les ascètes manichéens ont continué à vivre leur religion loin de la capitale, à apprendre la rhétorique. Et ils étaient en fait aussi dans ce lieu-là, loin des tracasseries administratives de l'administration impériale. La documentation de Kélis complète fort heureusement l'immense travail de commentaires en cours effectué sur les documents manichéens découverts au Fayoum. Il faudrait souhaiter que d'autres textes encore puissent ressurgir des sables du désert pour que l'on puisse collecter de nouvelles pièces du puzzle. Mais toutes ces découvertes ne cachent pas l'immense travail en cours sur de nombreuses sources manichéennes, indépendamment de l'Égypte, dans des textes conservés en moyen perse, en sogdien, en chinois, textes que l'on publie aujourd'hui encore. Alors, quelques mots de conclusion, si vous avez encore la patience de m'entendre jusque-là. Parmi les textes inédits exhumés par Nag Hammadi, c'est sans doute l'évangile apocryphe de Thomas qui reste le plus célèbre. avec ses 114 paroles attribuées à Jésus. La recherche historique sur les matériaux utilisés dans l'évangile canonique a profondément été stimulée. Dans les années 60-70, on s'est évertué à comparer systématiquement cette collection de paroles, dont la moitié existait en parallèle dans les évangiles canoniques. Aujourd'hui, on préfère rendre compte de tout l'apocryphe avec ce qu'il a de spécifique et son caractère gnostique disparaît progressivement. Cette collection de paroles attribuées à Jésus a été rassemblée bien avant l'éclosion des grands systèmes gnostiques comme ceux des Valentiniens ou des Sétiens. Cela montre que l'on ne peut plus parler de la gnose en général. Cela implique un recadrage des relations entre hérésie et orthodoxie au deuxième et troisième siècle de notre ère. Les 20 ou 30 premières années de la recherche sur les textes de Nag Hammadi a surtout intéressé les spécialistes des origines chrétiennes. Mais la collection comme telle a intéressé bien d'autres spécialistes de Pylore. Je pense à la papyrologie. Les manuscrits de Nag Hammadi constituent un exemple extraordinaire d'une collection qui manifeste des caractéristiques dans l'histoire de la fabrication des livres anciens. Au niveau des spécialistes de la langue égyptienne, les textes de Nag Hammadi illustrent aussi une étape importante dans l'histoire des dialectes coptes de l'Égypte au IVe siècle. Les manuscrits de Nag Hammadi servent à réécrire des pages entières des grammaires de la langue copte. Pourquoi faut-il étudier les manuscrits de Nag Hammadi aujourd'hui? Si Nag Hammadi a été l'objet de nombreuses recherches parmi les spécialistes des origines chrétiennes, l'intérêt s'est progressivement déplacé vers les auteurs chrétiens des quatre premiers siècles, jusqu'à la période des premiers conciles. Puis la découverte de la contribution philosophique de la gnose dans l'histoire de la philosophie, avant et après Plotin, ne cesse d'ouvrir aujourd'hui des champs nouveaux. L'étude d'une religion morte ancienne, comme le manichéisme, peut aussi nourrir le questionnement tout à fait contemporain sur les religions d'aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore parlé de la philosophie basilidienne qui se retrouve chez les manichéens et plus tard, jusque dans le Coran, à la sourate 4, aux lignes 155-156, quand il est question de la crucifixion de Jésus remplacée par un substitut. Ce n'est pas Simon de Cyrène, mais c'est un substitut, comme dans l'Apocalypse de Pierre de Nag Hammadi. Il me semble qu'une bonne connaissance des basiliens pourrait aider les commentateurs du Coran à comprendre ces passages sur la crucifixion de Jésus, transmise ainsi jusqu'au 7e siècle. Si les gnostiques anciens n'intéressent pas toujours le grand public, il importe en tout cas de relire les œuvres d'Augustin à la lumière d'une redécouverte des sources directes du manichéisme. Il en va de la compréhension de la culture occidentale qui a été influencée par les œuvres d'Augustin tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque des Lumières. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur. On a peut-être le temps pour une ou deux questions.
Oui.
Il y a encore un peu de temps.
J'ai un peu dépassé l'horaire, je vois.
Hein. Si personne n'a deux questions, j'en ai plusieurs.
Moi, j'en ai une qui est avant toi, Olivier, s'il te plaît.
Vas-y, Florence. Merci. Vas-y.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi il y a eu un. Pourquoi il y a eu un glissement de sens entre le manichéisme de Mani et le manichéisme qu'on comprend aujourd'hui comme la différence bien établie entre le bien et le mal? Enfin, d'où ça vient cette différence? Quand est-ce que c'est apparu?
Oui, alors c'est une question qui fait partie de la langue française. Hein. Quand on parle de « ah, c'est une perspective manichéenne », en fait, ça n'a pratiquement rien à voir avec le manichéisme originel. Il faut voir que le manichéisme, dès le IVe siècle, a été critiqué et persécuté, et progressivement, mais déjà au VIe, VIIe, VIIIe siècle, le manichéisme, pour les hérésiologues et pour le christianisme orthodoxe, était devenu signe d'hérésie. Au Moyen-Âge, il suffisait de dire que quelqu'un était manichéen pour le qualifier d'hérétique, même s'il n'avait rien à voir avec le manichéisme historique. Et donc, c'est comme ça que le mot manichéen est rentré dans la langue française pour définir une perspective dualiste qui oppose la lumière et les ténèbres, ou le blanc et le noir, ou des choses comme ça. Donc, il y a effectivement un glissement qui s'est fait entre l'Antiquité et le manichéisme historique de l'Antiquité, et finalement, cette catégorie manichéen qui définissait d'abord une catégorie d'hérétique qui n'avait finalement rien à voir avec le manichéisme originel.
Merci beaucoup.
Une autre question ?
Oui, si personne en a, je peux lancer ma batterie de questions. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Donc j'aurais deux types de questions. Enfin, la première est purement, on va dire, sémantique, et peut-être que j'ai raté la réponse parce que je suis arrivé avec un quart d'heure de retard. La distinction entre psychique et pneumatique, mais toujours obscure. Je ne comprends pas la différence entre les deux termes. Et la deuxième question est plus historique. Là aussi, peut-être que vous l'avez précisé dans les 15 premières minutes, mais j'ai remarqué que tous les gnostiques, les philosophes gnostiques venaient d'Égypte. Alors, est-ce que c'était lié simplement, on va dire, au milieu culturel d'Alexandrie et au fait que à la bibliothèque ou dans les académies d'Alexandrie, il y avait une culture néoplatonicienne effervescente, ou alors est-ce que c'est lié tout simplement, par exemple, à des traces de la culture égyptienne au sens propre, culture égyptienne au sens pharaonique, qui se retrouverait finalement dans la pensée gnostique?
Alors, je vais peut-être d'abord répondre à cette question avant de répondre à l'autre. Le hasard des découvertes fait que c'est surtout dans les sables d'Égypte que sont conservés les documents anciens pratiquement intacts depuis l'Antiquité. Imaginez que la découverte de Kélis, dont je parlais tout à l'heure, c'est en fait trois maisons manichéennes qui étaient conservées intactes depuis la fin du IVe siècle dans le sable. Ça, c'est pratiquement pas pensable en Asie mineure ou en Grèce ou à Rome ou en Espagne. Avec la pluie, il faut une culture très sèche pour que ce genre de choses existent. Donc, en clair, la documentation vient surtout d'Égypte, et j'ai surtout parlé de la documentation copte, donc écrite dans la langue égyptienne mais avec les lettres grecques, donc en copte, alors que j'aurais pu aussi parler du manichéisme en Asie centrale ou en Chine, mais évidemment je suis moins spécialiste de ce domaine-là, et donc c'est plutôt le hasard des découvertes qui font que la documentation vient surtout de là. Alors, ceci dit, ça n'exclut pas que dans les textes gnostiques qu'on a découverts à Nag Hammadi, on trouve des spécificités, pas simplement de la langue égyptienne, mais de conception égyptienne. Et ça distingue un petit peu certains gnostiques par rapport à ceux qui viendraient d'Athènes ou qui viendraient de Rome et qui auraient plutôt une culture classique à ce moment-là, au IIe siècle de notre ère. Ceci dit, la documentation est principalement tirée d'Égypte avec les fameux documents de Nag Hammadi, mais il aurait fallu parler des gnostiques qu'on trouve à Athènes, à Rome, à Antioche et même en Afrique du Nord. Malheureusement, on n'a pas beaucoup, on a des traces où on sait qu'il y a eu la présence de tels et tels gnostiques, en particulier en Palestine et à Antioche, mais on n'a pas de textes qui viennent d'eux. Et donc, le hasard des découvertes fait qu'on privilégie l'Égypte, mais il faut voir que pratiquement en 50 ans, pour penser aux Valentiniens, on trouve des Valentiniens tout au long du bassin méditerranéen. Donc il y a des Valentiniens à Rome, des Valentiniens à Athènes, à Antioche, en Asie mineure, et ça c'est quand même un phénomène qui malheureusement n'a pas beaucoup laissé de traces littéraires, mais de fait, il ne faut pas croire que ce n'est qu'un phénomène égyptien, quoi. Alors pour revenir à votre question sur psyché pneumatique, c'est vrai que c'est une distinction, je pense à une anecdote du temps où je faisais les cours à l'école des hautes études sur le traité tripartite. J'avais essayé d'expliquer ces fameuses catégories de chrétiens terrestres, chrétiens psychiques, chrétiens pneumatiques, et quelqu'un me disait 3-4 ans de suite, mais enfin, comment vraiment définir la distinction entre l'âme et puis le pneuma? entre l'âme et l'esprit. Alors, évidemment, on pourrait essayer de répondre à la question. Les